Le tea time, l'heure du thé, ça va nous réchauffer.
Oui. Alors, au 19e siècle, le thé est déjà apprécié depuis longtemps par la haute société anglaise, my dear. Hein? En 1662, la Portugaise Catherine de Bragance, en épousant le roi Charles II, avait apporté en dot Bombay, la ville de Bombay. Dans ce temps-là, on amenait une ville en dot. C'est chier.
Rien de moins.
Rien de moins. Et l'habitude, de boire du thé à toute heure. Mais c'est Anna Maria Russell, duchesse de Bedford, qui instaure le tea time vers 1840. Cette proche de la reine Victoria ne fait que deux repas par jour, comme c'est l'usage. Ah, pauvre, c'est triste, hein, deux repas par jour. Mon Dieu.
Elle devait se coucher ou se lever très tard. Ouais.
Estimant que le jeûne est bien trop long entre le petit déjeuner, très copieux, il faut le dire, par contre, les déjeuners anglais, je pense que j'avais déjà fait un déjeuner anglais.
Les scones?
Non, c'est des œufs brouillés, des saucisses,
bacon.
Le
déjeuner du bûcheron.
Oui, t'as plus faim après ça, là. Et le dîner en soirée, elle décrète un afternoon tea dans l'après-midi, avant la promenade, pour prendre des forces. Rien ne change en apparence. On boit du thé comme on le fait pendant toute la journée. Mais ce tea time-là est accompagné, tenez-vous bien, de cake, de biscuits et de petits sandwichs.
Oh.
Un petit repas. Adopté par les classes supérieures puis moyennes, le 5 o'clock tea, goûté de 5 heures, va désormais clore la journée de travail. Est-ce que vous avez déjà fait un thé anglais? C'est agréable.
Oui.
Moi, j'adore.
Moi aussi, j'adore. J'ai déjà eu ça comme cadeau de fête. Merci, Serge. On poursuit avec vous au retour.
Mm-hmm.
Serge Bradet, vous avez déniché une entrevue. C'est pas une entrevue, en fait, c'est
un article
dans le magazine « Ça m'intéresse, Histoire 2024 ».
Oui, un article de Gauthier Demouveau. Et c'est un article qu'il a écrit suite à la lecture d'un livre intitulé « La capitale de l'humanité ». C'est le journaliste Jean-Baptiste Mallet qui a trouvé... M. Mallet est prix Albert Londres 2018. Et il a découvert ça, il était à Rome et dans une vieille bibliothèque en ouvrant un livre de 1913 présentant les plans de cette ville futuriste. Il a trouvé ça. Il a trouvé ça magnifique, grandiose, fascinant, mais aussi inquiétant. Et son histoire n'avait jamais été écrite, alors il a décidé de la reconstituer. Et cela lui a demandé 3 années de travail et M. Demouveau s'est inspiré de ça pour l'article que je vais vous lire. Le 6 décembre 1913... Hendrik Anderson, un sculpteur américain, présente son projet de centre mondial de communication dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Devant lui, un parterre bondé d'artistes, d'hommes politiques et d'intellectuels. Pierre de Coubertin, initiateur des Jeux olympiques modernes, l'académicien Émile Boutroux ou le sénateur et prix Nobel de la paix Paul d'Estournel de Constant sont venus l'écouter. Nous concevons ce centre international, cœur du monde, sur un plan monumental, majestueux, qui permettra de rassembler et, pour ainsi dire, de syndiquer dans une grande maison des peuples les plus récentes réalisations humaines, affirme Anderson ce jour-là. Cette ville-monde, visant à la concorde mondiale, a pour ambition de réunir en un seul lieu toutes les grandes institutions internationales. Comité international olympique, une cour pénale internationale, une banque mondiale, un palais des gouvernements. En fait, une sorte de Nations unies avant l'heure.
Ville-monde,
ouais.
Belle expression.
Mmh, oui. Cette cosmopolis, c'était le nom, semble-t-il, qu'on avait pensé à donner à cette ville-là, mais juste sur papier, le nom aurait peut-être changé une fois qu'on l'aurait construite. Donc, cette cosmopolis doit aussi être pourvue d'une bibliothèque de référence, d'instituts internationaux des arts, des lettres et des sciences. Le tout construit autour d'une tour du progrès, un gratte-ciel haut de 320 mètres, doté à son sommet d'une installation de télégraphie sans fil afin d'informer le monde en temps réel des dernières découvertes scientifiques ainsi que les bureaux de toutes les sociétés qui travaillent au progrès du monde et au bien de l'humanité. Hendrik Anderson fait partie des nombreux utopistes de ce début du 20e siècle qui croient que mutualiser les savoirs permettra de cimenter une paix universelle. Né dans une famille modeste originaire de Norvège, Hendrik Anderson est un sculpteur néoclassique américain porté par un idéalisme sincère et par un rêve, celui de réaliser une œuvre d'art grandiose et totale. Cela fait 9 ans qu'il s'y consacre, corps et âme, aidé par sa belle-sœur, Olivia Cushing Anderson. Celle-ci, issue de la grande bourgeoisie de Boston, elle a passé son enfance dans les palaces européens. Olivia Cushing épouse, malgré l'opposition de ses parents, l'artiste Andreas Andersen, qui est le frère d'Hendrik. Malheureusement, le jeune homme de santé fragile décède quelques jours après leur mariage.
Pas chanceux.
Ben non. Forte de ses idées libérales et progressistes, c'est elle qui insuffle à Hendrik Andersen l'ambition de changer le monde. Olivia engage sa fortune et ses rentes. Elle a plus de 150 000 $ à l'époque de revenus, l'équivalent de 5 millions d'euros environ aujourd'hui.
Énorme!
Oui, puis ça, c'est annuel, là. Donc, elle prend cet argent-là pour financer la conception de cette ville grandiose qui a pour but de rassembler les nations. En 1906, afin de traduire concrètement leurs idées, les Andersen embauchent un architecte reconnu, le français Ernest Ébrard, couronné du prix de Rome. Ce pionnier de l'urbanisme accepte de travailler à ce projet fou pour s'assurer un salaire stable. Peu convaincu au début, il se laisse finalement séduire par leur vision. Et avec ses équipes, il dessine l'ensemble des plans, les croquis de somptueux édifices, pavillons dédiés à la médecine, chirurgie, agriculture, industrie, mais aussi l'organisation des rues, du réseau d'eau et de transport. Au fil des ans, c'est une ville de 26 km carrés, soit un quart de la superficie de Paris, qui apparaît sur les plans.
On n'a pas eu le temps d'élire un maire, là.
Non.
Ni le mairesse.
Non, pas encore, non. Temple des religions, hôpitaux, abattoirs, imprimeries, cimetières, parcs et jardins, plans d'eau, tout est pensé. Quand les dernières planches sont terminées en fin 1912, Olivia et Hendrik Andersen publient des milliers de brochures ainsi qu'un ouvrage d'art pour promouvoir leur projet. Tiré à 500 exemplaires, cette édition de luxe est envoyée aux puissants, donc les présidents et chefs de gouvernement, dirigeants d'institutions internationales, têtes couronnées. Olivia et Hendrik Andersen font également appel à Urbain Ledoux, un lobbyiste canadien, bien introduit dans les ambassades des pays d'Amérique du Nord et d'Europe, ainsi qu'à la Bourse de Wall Street, auprès des milliardaires philanthropes américains qui l'espèrent intéresser. Hendrik Andersen est reçu en audience en juin 1913 par Victor Emmanuel III, roi d'Italie, puis en novembre par le roi des Belges, Albert Ier, séduit par le projet. Les promoteurs lancent aussi une association de soutien. Baptisée Conscience mondiale, elle compte de nombreux adhérents, dont la baronne autrichienne Bertha von Suttner, prix Nobel de la paix, le sculpteur français Auguste Rodin, l'architecte autrichien Otto Wagner, le poète belge Émile Verhaeren ou l'astronome allemand Wilhelm Forster. En cette fin d'année 1913, tous les espoirs sont permis de voir aboutir cette idée folle. Si une partie de la presse se montre sceptique, le New York Times, l'Illustration ou le Figaro saluent ce projet ambitieux mais réaliste. On commence à évoquer le pays où pourrait être construite cette cité-monde. On parle de la Belgique, de la France, la Suisse, les Pays-Bas et les États-Unis, bien sûr, sont ici évoqués. Mais pour Hendrik Andersen, il est trop tôt pour agir. Il souhaite en effet obtenir un consensus international et il se laisse encore 3 ans pour lancer le chantier. C'est-à-dire que dans sa tête, on est en 1913, 3 ans, ça nous mène en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Pas très chanceux. Donc, 9 mois après la conférence de la Sorbonne, les bruits de bottes envahissent l'Europe. En août 1914, Première Guerre mondiale éclate, réduisant le projet du Centre mondial de communication à néant. Tandis qu'Ernest Ébrard, incorporé dans l'armée française, est fait prisonnier, Olivia s'éteint à Rome le 24 décembre 1917, victime d'une pneumonie. Après l'armistice de 1918, Hendrik continuera à envoyer ses plans aux grands de ce monde. Mais le temps des pacifistes idéalistes est révolu. Étonnamment, l'artiste recevra une réponse du chancelier allemand Adolf Hitler. Une lettre du 5 décembre 1935 lui faisant part de son intérêt pour le projet. Parce qu'il faut pas, petit short un peu du texte, là, mais Hitler, lui, avait un but de refaire Berlin. Ça s'appelait Germania, je pense, avec des monuments là, incroyables. Et il n'y a pas eu le temps à cause de la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a des plans très, très avancés qui avaient été mis sur papier. Et quelques années auparavant, le 28 janvier 1926, c'était Benito Mussolini qui s'était entretenu en privé avec Hendrik Andersen.
Tous des bons gars.
Ben oui, du bon monde. Le Duce Mussolini s'inspira plus tard des plans de la cité idéale pour bâtir sa nouvelle Rome. Devant servir de cadre à l'exposition universelle de 1942, qui n'a jamais eu lieu parce qu'on était en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale, ce quartier construit en périphérie romaine se voulait la vitrine de l'État fasciste. Il devait accueillir, à terme, les institutions politiques et culturelles de la capitale transalpine, ouvrant une nouvelle ère en Italie, après celle de l'Antiquité et de la Renaissance. Un projet idéologique à l'opposé de l'ambition d'Hendrik Andersen. Ce dernier, désespéré, finira sa vie alcoolique, vivant chichement, reclus dans sa maison romaine, jusqu'à sa mort le 19 décembre 1940. Malheureusement.
Triste destin.
Oui, ben oui, triste, triste.
Pour un visionnaire. Mm-hmm. Et je ne sais pas, est-ce qu'on en parle qu'il y a un musée, Hendrik Christian Andersen?
Ah, non, je ne savais pas.
Qui existe, un musée de Rome en Italie.
Ah! Okay.
Il est installé dans la villa qui a un tellement beau nom, Hélène.
Ah.
Résidence de l'artiste, conçue dès son origine pour conserver ses œuvres et son projet visionnaire.
Ah, mais ça doit être intéressant de voir, il doit avoir tous les plans là.
Oui.
Ah, mon Dieu.
Allons tous à la Villa Hélène,
ah, ben,
mais pas chez nous là.
Non, non.